Radio Campus 88.3 FM.
La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la Terre. Et pour le reste, mieux vaut n'en parler qu'à d'autres moments. Il y a aussi les entrailles.
Et le temps est venu de fêter nos différences.
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Écoute ta fac, vous êtes bien sur Radio Campus Orléans. Il est midi tout pile aujourd'hui, nous sommes le 13 décembre et nous aurons comme d'habitude l'agenda du Crous tous les mercredis. Nous aurons en invité Nathalie Aguirre, responsable de la BU de Sciences, pour nous parler du bouillon de lecture. Et enfin, le jeu des morts présenté pour la première fois par Mathéo. Mathéo, salut, ça va ?
Eh bien, ça va, et toi ?
Bon, ça va, écoute, ça va, t'as l'air...
Belle journée, hein.
Repose-toi, tout va bien. T'es arrivé en... J'ai cru que t'avais cassé tout le studio.
Non.
Et on a aussi Fatine, salut, comment tu vas ?
Hello !
Wow, t'es super forte en son.
Ah, sorry.
Super forte tout court, girl boss.
Girl boss.
Girl boss.
Girl boss.
Et du coup, comme je disais, Mathéo, pour la première fois, ouais. Pour le jeu des morts en fin d'émission, c'est cool parce qu'en ce moment, le jeu tourne beaucoup dans les présentatrices. On a eu Danae la dernière fois, enfin la semaine dernière. Mm-hmm. On a eu moi qui avais raté. Ça va rester en fait. Mais bref, et puis comme d'habitude, on aura la musique de Radio Campus, mais tout de suite, c'est donc l'agenda du Crous.
Écoute ta fac.
L'agenda.
Tu le veux celui-là ?
Bonjour à tous. Nous sommes les services civiques et nous voulons vous annoncer les soirées de cette semaine. Ce soir, c'est la soirée ping-pong au Dahlia à 19h30. Demain, on aurait une soirée classique au Magnolia à 19h30. Pour la semaine prochaine, mardi, nous organisons une soirée cinéma suivie de pizza au Magnolia à 19h30.
Bonjour, je m'appelle Tessa et je suis la volontaire allemande au service civique. Le lundi prochain, je vous propose une soirée Glühwein. C'est une boisson chaude d'hiver allemand. Venez goûter dans la cuisine commune des Ormes de 19h à 20h30.
Et bah super, je pensais qu'il y avait un peu plus de trucs, mais c'est pas grave. Nous on continue avec, du coup on commence en musique même, avec Client de, du coup, Client 93 avec Panic Multiplier.
We'll be right back.
Back. Come on. Bring the baseline back. Bring the bass line back.
D'écouter le génial Sitting Dogs de X Club et tout de suite c'est notre invité avec Fatine et avec Nathalie Aguirre.
Écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Bah, bonjour, je suis rejointe de Madame Nathalie Aguirre, responsable de la BU des sciences. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez nous parler d'un questionnaire qui a été lancé auprès des étudiants du campus pour savoir
si une offre par la BU de la science, s'il est connu auprès des étudiants ou non, et vous avez trouvé qu'il y a une méconnaissance pour, à propos de cette offre, qu'il s'agit de bouillons de lecture, d'une disponibilité de différentes œuvres de lecture ou d'un espace de lecture à la bibliothèque universitaire de sciences sur le campus. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de ce questionnaire et de ce projet ?
Oui, donc, en fait, j'anime un petit groupe de travail de quelques collègues qui a commencé à travailler donc, depuis plusieurs mois sur l'analyse de cette offre documentaire, en fait, cette offre loisir, en fait. Donc, le nom qui est actuellement utilisé, c'est le bouillon de lecture, en référence au bouillon qui est effectivement l'espace qui accueille les événements culturels sur le site d'Orléans. Alors, du point de vue documentaire et des bibliothèques, c'est vrai que ça recouvre en fait ce qu'on appelle une offre loisir, une offre de détente. Oui. Alors, donc, nous avons essayé de réfléchir pour savoir quelle était actuellement en fait l'utilisation de ce fonds, recueillir véritablement en fait les avis des étudiants sur cette offre. Donc, les collègues ont composé, les collègues du groupe de travail ont composé un questionnaire. Mmh. Et grâce au relais d'une association étudiante, ce questionnaire a été donc diffusé et relayé sur les réseaux sociaux. Et nous avons donc recueilli une cinquantaine de réponses. Mmh. Et en fait, pour deux tiers des réponses, cette offre de loisirs n'était pas bien connue, pas bien identifiée par les étudiants. Donc, ma présence ici, c'est aussi de comme première action concrète de mieux faire connaître cette offre de loisirs. Mmh. Donc, je peux vous la décrire petit peu
si vous voulez,
précisément.
Parler un peu de ce projet, bien sûr.
Voilà. Alors, d'abord, cette offre de loisirs, elle existe depuis plusieurs années. Elle ne vient pas de naître. Mm-hmm. Ça fait largement plus de 5 ans qu'on a développé dans les bibliothèques universitaires du campus cette offre. Donc, elle est spatialement répartie, en fait, entre les 3 bibliothèques universitaires. Elle a un espace assez grand au niveau de la bibliothèque universitaire de sciences, parce que c'est un espace au rez-de-chaussée avec des fauteuils, des bacs et donc pas mal de supports représentés. Oui. Donc, pour la bibliothèque universitaire de sciences, on offre et on met à disposition donc des bandes dessinées, des comics, des mangas. Oui. Les mangas ont beaucoup de succès.
Ça intéresse Mathéo.
Je m'en doute, on va être directement.
Alors, on met aussi à disposition, en fait, des documentaires, des guides de voyage. Alors, des documentaires sur des sujets de société qui peuvent intéresser les jeunes, comme toute la question du développement durable, la question des diversités. Il y a aussi une offre sur support DVD, donc à la fois des fictions, mais également des documentaires. Oui. Et les documentaires portent sur des disciplines scientifiques. Mais donc, les fictions peuvent aussi comporter des biographies, que ce soit des films biographiques sur Teddy Riner, sur Marie Curie.
Donc il y a aussi des sujets, des thèmes qui sont liés avec la filière de la science, qui sont liés avec...
Voilà. Le questionnaire a permis de recueillir, par exemple, la proposition des étudiants d'avoir, et à l'avenir, d'avoir une offre qui est un peu aussi, qui accompagne, en fait, leurs études. Oui. Donc, proposer des BD sur les mathématiques, sur la physique.
Ça peut être inspirant pour eux, pour leur projet universitaire, projet professionnel même. Donc ça, c'est très intéressant. Je veux juste savoir pourquoi Justement, vous avez dit que c'est un projet qui est uni entre les bibliothèques de l'université. Mais pourquoi l'espace de la BU de la science ?
Alors, en fait, physiquement, il y a une offre qui est importante en bibliothèque de sciences du point de vue de l'espace. C'est un espace qui est au rez-de-chaussée. Mais, par exemple, en termes assez larges de loisirs, la bibliothèque de droit offre également ce qu'on pourrait appeler un kiosque. Ça veut dire des titres de presse générale, d'information générale, qui est aussi une offre qui peut être considérée comme un relais par rapport à l'offre documentaire sérieuse sur les disciplines représentées. Elle offre également aussi sur, par exemple, des supports comme la bande dessinée, des bandes dessinées sur les grands arrêts en droit, mais aussi sur l'histoire économique. Et puis, en bibliothèque de lettres, il y a aussi des bandes dessinées, par exemple, qui est quand même un support de prédilection auprès des jeunes, qui recueille un assentiment sur les adaptations littéraires. Oui. Et ça, c'est assez... ça représente par exemple que ce soit pour la littérature dite classique mais aussi sur des ouvrages plus récents, je pense à des adaptations de romans voire de films, Elle s'appelait Sarah, il y a des adaptations très classiques d'ouvrages de Victor Hugo. Et il y a d'ores et déjà dans d'autres BU que la bibliothèque de sciences des partenariats et des contacts aussi avec les filières d'enseignement. Au niveau de la bibliothèque de lettres, il y a par exemple un projet et quelque chose qui revient, qui est le partenariat sur les lauréats des bandes dessinées. Donc en janvier prochain, les collègues de la bibliothèque de lettres vont amener les étudiants à voter sur les bandes dessinées préférées. Donc, je peux aussi parler d'un autre projet qui a été transverse à au moins deux bibliothèques, qui est l'accueil dans les locaux des bibliothèques de la nuit de la lecture. Par exemple, en 2022, la bibliothèque de lettres a accueilli une lecture dans le cadre de cette manifestation nationale que sont les Nuits de la lecture. Donc en 2023, pour les Nuits de la lecture de cette année-là, c'est la bibliothèque de sciences qui a accueilli cette fois-ci l'événement. Donc il y a à l'échelle de l'ensemble des bibliothèques du campus, une offre documentaire qu'on souhaite faire connaître.
Tous les étudiants peuvent profiter de ces événements, de ces œuvres. Parce que si on est en faculté des sciences, on peut être aussi intéressé par de la littérature, par des œuvres littéraires. Donc c'est bien de mixer, fusionner entre les bibliothèques, comme ça on peut profiter de tout. Est-ce qu'il y a des activités spéciales prévues pour, dans ce cadre de bouillon de lecture ? Est-ce qu'il y aura des ateliers, des clubs de lecture ?
Alors, dans l'exemple que je vous ai cité pour les nuits de la lecture, en fait, le partenariat, il est au niveau du club lecture donc de l'Université d'Orléans. Il y a une chose que je souhaiterais vraiment dire, c'est que l'offre que nous proposons, en fait, elle est complètement gratuite pour tous les étudiants qui sont inscrits à l'université. Ils peuvent venir donc dans les locaux des trois bibliothèques de façon totalement libre. Ils peuvent consulter sur place. Ils peuvent également emprunter des documents. Je rappelle qu'on peut emprunter jusqu'à 25 documents pour une durée d'un mois. Et cette règle s'applique aussi pour les bandes dessinées, les mangas. Et que cette gratuité est très importante à porter pour permettre à chacun de s'approprier notre offre documentaire. cette offre de loisirs aussi à travers, par exemple, les romans policiers que, dont nous avons plusieurs centaines de titres en bibliothèque universitaire de sciences. Elle est aussi à destination du personnel de l'université dans sa globalité. Nous avons parmi nos lecteurs aussi du personnel de l'université.
C'est disponible pour les étudiants et les personnels du campus, donc tout le monde peut lire. Et justement, je viens de me rappeler de nombre de disponibilités des livres, donc le nombre des BD, des romans que vous avez.
Alors, je peux un petit peu plus vous parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire l'offre qui est en bibliothèque universitaire de sciences. Donc, on a à peu près 1000 BD, hein, c'est un ordre de grandeur. On a aussi, dans ce chiffre, il y a aussi les mangas, les comics qui sont inclus. Nous avons donc plusieurs centaines de romans policiers. Nous avons des documentaires et des guides de voyage à hauteur de à peu près 800 documents. Nous avons à peu près 300 DVD à disposition pour le prêt. Alors, dans ces documents, donc, en fait, il y a un certain nombre de renouvellements relativement fréquents. C'est une offre qui est, j'allais dire, mise à jour. Nous avons également à disposition des jeux de société. Oui. Donc là, cette offre s'est plutôt étoffée sur les deux dernières années. Mm-hmm. Et elle est relayée principalement, là aussi, en bibliothèque universitaire de sciences, c'est là où il y a le plus de jeux, mais il y en a quelques-uns également dans les deux autres bibliothèques. Ces jeux de société, c'est pour les étudiants quand ils font une petite pause, qu'ils souhaitent prendre un Uno puissance 4 pour se délasser. L'idée est de proposer donc quelque chose qui s'apparente à de la détente, à un loisir. Et qui est aussi une de nos missions par rapport à l'ensemble
de la détente. C'est si on n'est pas forcément intéressé par la lecture, il y a les DVD, il y a les jeux de société, il y a une variété de produits présentés par la bibliothèque, l'université en gros. En quoi cet événement s'inscrit-il dans la mission plus large de les bibliothèques de l'université, donc en ce qui concerne la promotion de la lecture et de la culture plus spécifiquement?
En fait, les bibliothèques sont un petit peu les acteurs, aussi les relais par rapport à l'ensemble de la vie étudiante. Donc il y a par exemple, on va dire un gros mot qui est l'action culturelle.
Oui,
et donc les bibliothèques s'y insèrent dans la mesure de leurs moyens. Je peux citer d'autres actions qui sont présentes ou futures dans ce cadre-là, qui est l'accueil d'expositions dans les murs des différentes bibliothèques du campus. Donc, et quand je dis d'exposition, ça peut être aussi d'exposition. Nous accueillons, par exemple, jusqu'à la fin décembre, le rhinocéros en bibliothèque universitaire de sciences, qui a été, si je puis dire, une forme de mascotte pendant 6 mois dans notre bibliothèque. Et on a accueilli une exposition qui essayait de mettre en scène le travail du musée du Maube d'Orléans en accompagnement du rhinocéros. Les bibliothèques accueillent aussi des expositions en lien avec des manifestations nationales ou locales. Nous avons pour projet de participer à la manifestation « Oser lire » En 2024, nous allons accueillir également, je pense, l'exposition de la Société française de physique pour l'anniversaire de cette Société française de physique. L'exposition s'appelle 15 physiciennes. Nous avons également pour projet d'accueillir dans nos locaux de bibliothèque universitaire une exposition sur le gaspillage alimentaire. Oui.
Est-ce que peut-être il y aura des compétitions d'éloquence ou des débats peut-être sur des livres, des DVD, comme ça, ça pourrait être intéressant.
Je dirais que tout ça est un projet. Essayons déjà de mettre en place des actions en termes de politique documentaire, de faire connaître ce que nous faisons.
Le plus essentiel, c'est d'inviter les étudiants pour s'intéresser. Parce que en tant qu'étudiante, je suis sûre qu'il y a plusieurs étudiants qui seront intéressés par les livres, les romans, les mangas, comme ça. Matteo, il a l'air très intéressé par les comics.
Les mangas, ça m'intéresse beaucoup.
Ouais.
Voilà, nous avons l'atelier des sorciers, avons des BD, que ce soit Taniguchi, que ce soit des collections classiques ou plus récentes. Nous essayons de coller le plus possible aux souhaits des jeunes. Donc, que les jeunes n'hésitent pas à venir vers nous, qu'ils nous fassent des suggestions, qu'ils viennent discuter avec nous dans les bibliothèques sur ce qu'ils souhaitent. Oui. Nous sommes à leur écoute pour essayer le plus possible d'adapter et de proposer à la fois des documents et des événements qui leur permettent de mieux appréhender à la fois notre
d'enrichir
monde,
aussi
les loisirs.
Leur connaissance, oui. Merci beaucoup d'avoir fait ça avec nous. J'espère qu'on n'a rien oublié. Et on vous invite à la Bibliothèque des Sciences pour lire, pour se divertir. Et oui.
Pour se cultiver,
bien sûr.
Merci beaucoup Nathalie Aguirre d'être passée dans Écoute ta fac. Nous, on continue en musique avec Quietly Silently de Sunbather. We'll be right back. Voilà, ça réveille. C'était le Cold Song de Klaus Nomi remixé par Arnaud Rebottini. On continue en musique dans 4 minutes tout pile. Ce sera le jeu des morts de Matteo. Enfin non, dans 5 minutes. Juste le temps d'écouter ce titre-là et peut-être juste un autre juste après. Mais tout de suite, c'est Band Spectra avec Human Reciptacor. Je sais pas lire. C'est pas grave.
I was born into the ranks where you were running through gangs. Never, ever, ever, ever had to walk for anything in my life. I'm a natural leader, you are a true believer. I see them scraping on my knees, they recognize I'm nearly. Never, ever, ever, ever had to work for anything in my life. You are a reciprocator. I'm a public speaker, forgive my misery.
Retour en studio avec Alexia qui nous a rejoint.
Coucou. Salut.
Et Matteo, est-ce que tu nous as dit que tu étais d'attaque pour faire le jeu des morts ?
Je suis d'attaque.
Ah, oh, t'as l'air motivé.
Ah oui. Non, vraiment, je suis d'attaque.
À fond.
À son 1%.
À son 1%.
Oui.
Bah, le 1 plus. Je te laisse guider ce jeu.
Et évidemment,
des morts,
évidemment.
Parce qu'aujourd'hui, tu nous as dit que c'est que des morts.
Et c'est un jeu mortuaire aujourd'hui.
Donc c'est le jeu des morts aujourd'hui, simplement.
C'est vraiment, là, ça porte bien son nom. À ce niveau-là, ça porte très très bien son nom. Et on va commencer tout de suite avec une personne née le 4 décembre 1866 à Moscou et mort le 13 décembre 1944 à Neuilly-sur-Seine. C'est un peintre russe naturalisé allemand, puis français. Considéré comme l'un des peintres les plus importants du XXe siècle, il est souvent considéré comme l'auteur de sa première œuvre d'art abstrait de l'époque moderne. Bien que les histoires d'art soupçonnaient le monsieur en question d'avoir antidaté cette aquarelle qui ressemblait à une esquisse de la composition V2, c'est 5, 7.
Je comprends rien.
De 1913. Quoi qu'il en soit, la célébrité du monsieur est liée à son rejet progressif au cours de ces quelques années de tous les éléments figuratifs de sa peinture. Et en fait, il a fait des peintures abstraites.
Abstraites, ouais. Abstrait, alors moi, j'y connais rien en peintre.
Tu peux rappeler ça la date de sa mort.
En 44.
Il est mort le 13 décembre.
Donc c'était un russe naturalisé français.
C'est ça, naturalisé allemand et français.
Allemand et français, pardon. Oui, mort en 44.
Est-ce
franchement
qu'on a des noms de, des
oui, des œuvres, oui. Des peintures.
Alors,
ouais.
Niveau œuvres,
peintures. Livres.
Pas de livres. niveau peinture, il n'y a pas de nom particulier sur ces peintures apparemment. Juste, c'est des œuvres.
Il n'y a pas de nom d'œuvre.
Il n'y a pas de nom, apparemment. Ah, si, jusqu'à l'abstraction. Je ne sais pas si vous connaissez
jusqu'à l'abstraction.
Donc c'est le nom d'une seule œuvre.
C'est le nom d'une seule œuvre. Jusqu'à l'abstraction. C'est une œuvre. C'est une de ses œuvres.
Bah écoute, moi je ne sais pas. Moi j'ai l'impression d'avoir entendu.
Segment bleu.
Segment bleu.
C'est une de ses œuvres.
Klein.
Non.
Je ne sais pas. Écoute, j'essaye. Bleu. Mais je ne sais pas. Je ne connais rien en peinture. Je n'y connais rien en peinture. En peintre et en art.
Je sais pas.
Mais je vous donne la réponse
on
ou pas?
On vient de me souffler la réponse.
Non, non, mais on ne triche pas, on ne triche pas au jeu. On ne triche pas au jeu, donc Lucas est hors jeu.
Il est connu.
Tu connais de nom? Du coup, maintenant qu'on t'a donné la réponse.
Je suis même pas sûr d'avoir bien.
Alors, si tu parles dans le micro, c'est mieux.
Je suis même pas sûr d'avoir bien lu le.
D'accord, bon.
Si, bah, du coup,
est-ce qu'on donnerait pas notre langue au chat?
Kandinsky.
Oui.
Et non. Ah si, lui, pardon.
C'est qui? Ah bah super.
On vient de me donner la réponse.
Alors, est-ce qu'on peut entendre?
C'est Vasily Kandinsky.
Ouais, Kandinsky. Ouais, j'ai... Bah, merci pas. Mathéo, c'était super. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite?
On a une personne qui est née le 14 mars 1909 et il est mort le 13 décembre 1991. Est souvent considéré comme un écrivain surréaliste et même s'il le rejoint sur certains aspects, il ne pourrait pas être il est totalement rattaché. Donc, il n'est pas totalement rattaché à tout ce qui est surréaliste.
D'accord, donc un peu, mais pas trop.
Ouais, c'est ça. On ne sait pas trop. De fait, il est aussi membre inavoué du romantisme noir.
Ok. Romantisme noir.
Et constitue l'un des derniers représentants du symbolisme de nationalité française.
D'accord, et quelle peinture il a écrite?
C'est pas des peintures, c'est plus des livres du coup. Il a écrit, ce que je connais, Le Musée Noir.
Le Musée Noir, ok.
Il a écrit aussi Page Mexicaine.
Page Mexicaine, d'accord. Est-ce qu'on a d'autres titres?
Correspondance.
Oui, bon, ça c'est...
Ça c'est, oui.
Madame de Sévigné.
Est-ce qu'il a eu des récompenses, des titres des...
Ah non, c'est pas dit. Il n'y a pas eu de récompense apparemment.
Bon. Ah, nul.
Faut pas dire ça top, quand même, attention.
Il a eu le prix Goncourt.
Ah, quand même.
Petit prix, tout petit prix.
Pas de grosse récompense en soi.
Ah oui, non, le prix Goncourt, c'est...
Ça représente rien du tout.
C'est un cadeau.
D'accord, donc un écrivain français mort en 91, surréaliste mais pas trop, correspondance, musée noir, romantisme noir, prix Goncourt,
je sais pas ce que c'est,
ouais, sûrement, du romantisme un peu sniff-niff.
Sniff-niff.
Un peu ouin-ouin.
Non, bah on l'a pas. Écoute, Mathéo, moi je ne sais pas du tout. je sais pas où est mon cerveau moi aujourd'hui. Mais...
Il s'appelle André Pierre de Mandigarde.
Ok, oh, bah, bien pour lui.
Mandigarde.
Eh ben, ok. Encore une belle équipe que nous formons pour ce jeu.
Encore un grand chelem que nous allons faire aujourd'hui.
Mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous rattraper sur la suite, je pense.
Ah,
ça dépend.
Ok, allez, je suis prête.
Alors, né le 4 novembre 1979 et mort le 13 décembre 1974.
Pardon
quoi?
Tu peux recommencer les dates, s'il te plaît? Les années.
Il est né le 14 novembre 1904. Alors, 1800.
Ah oui. Ah oui. Ah oui, je me suis dit, c'est bizarre, il est mort avant d'être né, c'est chelou quand même.
J'ai du mal à lire. Donc, 1879, il est né et il est mort en 1974.
Okay. Qu'est-ce qu'il faisait, ce monsieur?
Il était commerçant et écrivain français. Il a mis en scène sa vie aventureuse centrée sur la mer Rouge et l'Éthiopie de 1911 à la Seconde Guerre mondiale dans de nombreux livres, autobiographies et romans publiés à partir de 1931.
Dont
et le fils de Georges Daniel Montfray.
Est-ce qu'on peut avoir des...
Ah oui, c'est libre.
Par exemple, pour un écrivain, c'est mieux, quoi.
Il est le fils de...
Il est le fils.
Ah, excusez-moi. Alors, on a la poursuite du K-Pan, si je peux dire ça comme ça. Le lépreux. Des noms très sympas.
Ça, c'est triste.
L'homme sorti de la mer. Mon aventure à l'île des Forbans.
Ça me fait rire juste pour Forbans, pardon.
Pourquoi Forbans te fait
Allez,
rire?
Allez, c'est un groupe, les Forbans.
On va y aller, on va y arriver. Pour un artiste qu'on n'aura pas.
Le naufrage de la Marietta.
Ouais, non, mais
ah, oui,
bah,
bien sûr.
Le trésor du pèlerin.
Du pèlerin.
Pèlerin, pèlerin, ouais, le pèlerin. Le trésor du pèlerin. Le secret du lac noir.
Oui.
Il demande.
Allez, encore un dernier.
Est-ce que c'est ça
le naufrageur.
Non, mais non.
Non, vous avez aucun.
Non.
Est-ce que c'est Jacques de Londres?
Non.
Ça fait un peu Jack London, un peu des trucs de voyage et tout. Je ne sais pas. Jacques de Londres, moi je dirais.
Jacques de Paris, Jacques de Lyon, peut-être en bon français.
Ouais, ouais, Jacques de d'Orléans.
Jacques d'Orléans.
Non plus.
Non, bah non,
bah c'est qui
On est nul, Mathéo, on est nul.
Mais vous n'êtes pas nul.
Oui, mais là, il faut nous balancer le.
Ouais, là, il faut passer à autre chose parce qu'on
a honte
de nous.
Il s'appelle Henri de Monstrade.
Eh bien, oui, bien sûr.
Ah, bah, bien sûr.
Dans une continuité logique.
J'ai l'impression, mais qu'on est les pires, quoi.
Non, c'est pas faux. Alors, ensuite, né le 7.
Non,
c'est pas faux.
Non, c'est pas faux.
Non, j'ai dit non, c'est faux.
Ah non, t'as dit non, c'est pas faux. Mais moins égale plus. Allez, on a.
Je dois être bourré aujourd'hui. Alors, né le 7 mai.
À consommer avec modération.
De l'eau, né le 7 mai 1841 et mort le 13 décembre 1931 à la Marne de la Coquette. Est un médecin.
Johnny Hallyday ?
Mais médecin ?
Et pas médecin, Johnny Hallyday.
Un médecin ?
C'est un médecin anthropologue, psychologue social et sociologue français.
Il a voulu nous humilier en fait, Mathieu. Ouais. Ça, il a choisi vraiment les trucs les plus.
Non, bah,
en fait,
pas,
je suis sûre que nos auditeurs réussissent.
Ah, parce que les auditeurs
réussissent bien mieux que nous.
Il est intervenant dans des domaines variés. Il est l'auteur de 43 ouvrages en 60 ans, traduit en une dizaine de langues de son vivant et plusieurs fois réédité entre 1890 et 1920, dans lesquels il aborde, parmi d'autres sujets, le désordre comportemental et la psychologie des foules. Le Bon reste une personnalité controversée d'une part.
Qui s'appelle Ah non, merde, je croyais que c'était son nom. J'étais là, waouh, un indice.
Le Bon.
Alors, si, c'est son nom.
Bon. Comportemental.
À une époque où la méthode devient importante.
Médecin. Foucault. Non.
Quand on peut avoir des noms de livres.
Ouais.
Un nom de livre de Gustave Le Bon.
Quoi
pour la page, déjà.
Quoi Est-ce qu'il a dit le prénom
Est-ce que tu viens de nous dire qui c'était Gustave Le Bon.
Ouais,
Donc c'était bien ça qu'on avait entendu.
C'est...
Mathéo, c'est génial.
Voilà, je suis génial. Pire pour faire ce jeu, excusez-moi.
Bah, c'est la première fois que tu l'animes, alors c'est
un point pour nous.
Un point pour nous.
Ouais.
Un point mérité, non volé, un point parfait.
Oh, je suis le pire pour ce jeu, excusez-moi.
C'est encore pire que moi hier qui avais oublié de mettre
la
date de naissance et la date de mort de Ike Turner. Et là...
Est-ce qu'on peut faire genre que ce moment n'est jamais arrivé?
Bien sûr, là c'est dû.
On n'est pas en direct.
On va couper au montage.
Pour toutes les personnes qui nous écoutent, ce moment n'est jamais arrivé.
Vous êtes bien sur Radio Campus 88.nul.
Dans le jeu des morts et des naissances où on ne trouve rien sauf les titres qu'on nous donne, évidemment.
Et les titres, comme moi, tu fais la même erreur.
Allez, la suite. Né le 18 mars 1933, mort le 13 décembre 1863. Pas une longue vie quand même. Vous vous inquiétez pas, je me suis pas trompé.
Là, il y a eu un problème de date encore.
Non, c'est quelqu'un qui est mort à 30 ans. Quoi.
1813.
Ah, 1813.
Et mort 1863. Okay. Vous inquiétez pas,
63, j'avais entendu 33.
Ah non, 63 quand même. Comme okay. 50 ans.
Ça fait 50 ans.
Ça va.
Il était un poète et un dramaturge allemand.
Ok.
Dramaturge il allemand était... du Holstein.
Ok.
Holstein, qui ouais. était un territoire peuplé d'Allemands et un domaine personnel du roi du Danemark.
D'accord, super.
Ouais, je lance l'option comme ça.
Bien, c'est bien.
De 1959 jusqu'en 1864. Il était le fils d'un maçon sans fortune. Il montra très tôt un talent pour la poésie et parvient à faire publier ses vers Hamburg Modestug.
Donc c'est un, du coup c'est un poète et un dramaturge. Donc c'est-à-dire qu'il a écrit de la poésie, il a écrit du théâtre, il a écrit du théâtre.
Et il a été aidé de Amalie Schkop, journaliste populaire et auteur en compte de nourrice, à qui il avait envoyé celle-ci, permis en outre d'entrer en 1236 à l'université de Hambourg.
Ok, donc là on est sur la jeunesse encore.
C'est ça.
Est-ce qu'on va pas avoir quelques infos de bouquins?
Alors,
de...
Un an après, il partit à Heidelberg étudier le droit.
D'accord.
Puis à Munich.
Est-ce que Mathéo, tu serais d'accord pour nous donner un titre ou deux de pièces de théâtre qu'il aurait écrit, tu vois?
Capital, ses poèmes, tragédie des années, écrivit la première tragédie. Alors sa première tragédie, Judith.
Judith, d'accord.
Judith, édité tu sais... en 1841.
Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres, tu vois, dans un peu plus bas dans ta page l'année Wikipédia suivante, si tu es sur Wikipédia.
Hambourg, non, je suis pas sur Wikipédia.
Ah, ok.
Cette pièce se fit connaître dans l'ensemble de l'Allemagne. Il écrivit la tragédie Genovena.
Genovena, ok.
Et qui est finie en 1941, la comédie Le Diamant, qu'il avait commencé à Munich.
Munich.
Le Diamant.
Donc Le Diamant, Genovena et excusez-moi, j'ai oublié la première. Judith,
Genovena, Le Diamant. Est-ce qu'on a d'autres œuvres peut-être qu'on pourrait citer?
Sa poésie, Mère et enfant.
Alors moi la poésie, laisse tomber.
Moi j'aime bien la poésie, c'est beau
à
entendre.
Bah, oui.
À quand les vacances? C'est le seul truc que j'ai à peu près retenu.
C'est de la poésie, ça?
Raymond DeVos.
Je m'attendais pas à ça. Est-ce qu'on a d'autres œuvres? Parce que moi là, ça me dit rien du tout. Et puis.
Et puis il y a personne. Il
y a ces tragédies.
Ouais.
Julia.
Des tragédies. Donc c'est un Allemand.
Ouais. Gignès. Alors, je sais pas si je vais peut-être écorcher son nom. Personne.
À Munich.
Gignès et son Nano. C'est le nom de la tragédie.
Ça me dit rien du tout, hein, vraiment.
Démétrius.
Ouais.
En 1864.
On improvise un peu là.
Hein. Trilogie.
Est-ce que on change de personnage? Parce que là, moi, je ne sais vraiment pas.
Ouais. Le nom, c'était Friedrich Ebed.
Eh bien non. Allez, on enchaîne.
On enchaîne un dernier.
Le dernier.
J'en ai un petit dernier si tu veux.
Vas-y, je te laisse faire.
Si tu le souhaites.
Baisse un peu ton micro pour qu'on t'entende mieux.
Ouais.
Super, nickel.
Merci beaucoup. Alors, c'est une chanteuse.
Taylor Swift.
Oui. Je me suis dit, est-ce qu'elle va savoir? Il y a une chance sur quatre qu'elle ne sache pas.
Une chance sur quatre, il y avait zéro chance que je ne sache pas.
Elle l'aurait su certainement.
Elle est née le 13 décembre 1989.
Bah, on va te laisser faire sa biographie alors.
Eh ben ouais, Taylor Swift est donc née.
13 décembre.
Elle est née.
Un 13 décembre 1989, je dirais aux alentours des petits états, là, genre Maine, quelque chose comme ça.
C'est pas une Texane ?
Non, ou Pennsylvanie ou un truc comme ça. Mais elle convainc ses parents, dès son plus jeune âge, de déménager dans le Tennessee.
Ah oui, donc c'est
à Nashville pour... C'est elle la boss.
Elle est grande. C'est girl
boss.
Grande.
Elle décide en effet de... Elle dit à ses parents, voilà... ses parents étaient propriétaires d'une ferme de sapins de Noël.
Wow. Nice.
Et donc, il déménage à Nashville pour qu'elle puisse tenter sa chance en tant que chanteuse, ce qui, on peut le constater, a bien marché.
Moyen. Petite carrière.
Elle a commencé avec du country.
Elle a commencé par la country parce qu'à Nashville c'était un petit peu le
béaba.
Voilà. Et puis elle s'est diversifiée avec les années. Elle est allée plus vers la pop. Elle se diversifie de plus en plus. Elle aime bien tester de nouveaux sons et puis c'est quand même. Elle a été élue là la semaine dernière personne de l'année par le Time Magazine.
Ce qui est très très honorable comme, prix.
Elle a aussi un doctorat, non?
Elle a eu un doctorat honoraire par Columbia, je crois.
Un doctorat en quoi?
Je sais pas. On sait rien.
Musique, en prix, en
par contre, moins honorable ces émissions avec son jet privé, mais bon, voilà, on peut pas être parfait. Voilà.
C'est encore d'actualité ?
Je sais pas.
Bah, joyeux anniversaire,
Taylor Swift. Bon anniversaire, Taylor Swift. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'auditeurs de Radio Campus qui doivent l'écouter, mais moi, je suis une
Alexa. Alexa. Qui te souhaite un joyeux happy birthday.
Voilà, exactement.
Look what you made me do.
Tu lui as déjà envoyé un message dans la rétrospective de Spotify, elle était très contente. Du coup, elle te renvoie un message.
Voilà, je renvoie mon message. J'étais quand même dans le top 2% des auditeurs sur Spotify. Je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas.
Et bah, merci à tous.
J'ai passé une année difficile.
Merci Mathéo pour.
C'était catastrophique.
Mais non, c'était pas catastrophique.
Alors, c'était plutôt nous qui étions catastrophiques. Voilà.
Oui. Nous, pour le reste de votre journée sur Radio Campus, Le Moulin à Parole à 15h, 16h, Victor